Le droit et nous, dans la grande matinale avec Aloutal, sur Africa numéro 1.
Bonjour Aloutal.
Bonjour Phil.
Il arrive qu'un étranger se retrouve sans aucune nationalité. On n'a jamais été considéré comme le ressortissant d'un État. Des millions d'étrangers sont concernés par cette situation dans le monde. Ils sont confrontés à des problèmes récurrents d'état civil, à des difficultés administratives et juridiques pour travailler, pour se marier, instruire leurs enfants, accéder aux soins ou exercer leurs droits civiques. Nous abordons aujourd'hui la protection et les droits dont il peut bénéficier pour mener une vie digne et citoyenne. Comment obtenir le statut d'apatride quand on n'a aucune nationalité à Aloutal ? Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un apatride et comment devient-on apatride ?
Très intéressant comme question. Parce que d'abord, la notion, on l'utilise souvent et parfois, on ignore sa portée. Par exemple, je donne un exemple. En France, il y a ce qu'on appelle l'OFRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Mais le mot apatride, parfois, est ignoré. Les gens demandent l'asile politique alors qu'ils oublient ou bien qu'ils ignorent qu'ils peuvent demander aussi une protection en tant qu'apatride. D'abord, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que l'apatride ? D'après les définitions des conventions internationales, on considère une personne comme apatride à partir du moment où aucun État ne considère qu'il est son ressortissant par application de sa législation. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, des millions. Mmh. D'après les chiffres officiels déclarés, il y a plus de 12 millions de personnes. Ça fait beaucoup. C'est pratiquement un État africain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes disséminées à travers le monde qui ne peuvent pas prétendre avoir droit à une nationalité quelconque. Ces personnes sont dans une fragilité sociale, oui, administrative et juridique. Maintenant, comment devient-on ?
C'est comme s'ils n'existaient pas, en fait.
Exactement.
Il n'y a aucune trace, aucune donnée.
Exactement. C'est comme si on est là, mais on n'existe pas. On n'existe pas. Juridiquement, on n'existe pas. Et c'est assez délicat quand même quand ça arrive à une personne. Et comment cette situation peut arriver à une personne ? Elle peut arriver en fonction de ce qu'on appelle les conflits de loi. Mmh. On a eu à aborder cette question très technique en droit. On peut dire que c'est des questions les plus techniques en droit de manière générale. Il y a plusieurs lois qui sont en conflit et qui font que cette personne ne peut prétendre aucune de ces lois pour dire que je suis malien, ivoirien ou sénégalais ou burkinabé. Je donne un exemple. Ça peut être le cas où un enfant qui est né de parents qui sont originaires d'États qui ne transmettent la nationalité que si les deux parents sont à la fois du même pays. Ça veut dire que deux Gabonais, l'enfant peut devenir Gabonais. S'il y a un des parents, le père ou la mère, qui n'est pas Gabonais, donc la nationalité ne peut pas être transmise à cet enfant-là. L'enfant, de facto, devient un apatride. C'est délicat. Ce n'est ni de sa faute, ni de la faute de ses parents. C'est une déduction de la loi qui veut que, pour qu'on puisse devenir sénégalais ou malien, il faut que les deux parents soient à la fois sénégalais. S'il y a un parent qui souffre d'une extranéité de nationalité, l'enfant devient apatride. Et là, c'est une question très délicate qui est posée en droit international privé et qui, jusqu'à présent, préoccupe les praticiens du droit. Il y a aussi la possibilité d'un enfant de ressortissant de pays qui ne reconnaissent pas le droit du sang, on l'a étudié, alors que cet enfant est né dans un pays qui ne reconnaît pas le droit du sol. Vous voyez ? D'abord, on vous dit que ici, ce n'est pas parce que vos parents sont Gabonais que vous êtes Gabonais. Il faut naître chez nous. Mais cet enfant est né ailleurs. Cet ailleurs-là ne lui dit que non, nous, pour être, avoir notre nationalité, il faut qu'un des parents, au moins, soit de notre pays.
De ce pays, ouais.
Ça veut dire qu'il faut le droit du sang. Ici, on n'applique pas le droit du sang, là-bas, on applique le droit du sol, ou vice-versa. Et là, ça crée des problèmes de droit international privé très délicats qui font que la personne peut devenir sans nationalité. Ça peut aussi être une personne qui a eu la nationalité française, mais qui a été déchue de cette nationalité française, gabonaise, je donne un exemple, de quel que soit, en tout cas, le pays, qui, pour des raisons quelconques, des raisons de criminalité, des raisons de politique politicienne, parfois même, il y a des gens qui, pour écarter un opposant politique, essaient de le déchoir de sa nationalité en disant que vous n'êtes pas un vrai Ivoirien, monsieur. Finalement, vous n'êtes pas un vrai Ivoirien. Je donne cet exemple-là qui est typique parce que le problème s'est posé quelque part en Côte d'Ivoire où il y a des milliers de personnes qui étaient concernées. Heureusement qu'il y a eu en Côte d'Ivoire une loi en 2013. On se rappelle, c'est jour pour jour, c'était le 13 septembre 2013, qui est venu essayer de résoudre cette problématique-là. Aussi, ça peut aussi découler d'une défaillance au niveau de l'état civil. Je donne des pays, par exemple, qui n'avaient pas un état civil très développé, très organisé, comme les Comores. Pendant un temps, il y a beaucoup de Comoriens qui ne pouvaient pas avoir d'acte de naissance. Ils ne savaient même pas. On savait qu'ils sont Comoriens. Ils parlent leur langue, ils sont Comoriens. Typologiquement, on peut les identifier comme Comoriens, mais au niveau de la nationalité, ils n'ont aucun document de traçabilité par rapport à l'état civil et par ricochet par rapport à la nationalité. Et en dernier lieu, ça peut découler d'un transfert de souveraineté. Je donne un exemple de pays qui ont été disloqués. L'ex-Yougoslavie, par exemple, si vous étiez dans un territoire et que vous avez la nationalité de l'État, l'État primaire, etc., n'existe plus, finalement, vous pouvez perdre une nationalité du fait qu'il y a un transfert de souveraineté. Ça peut être aussi quelque chose qui est issu d'une colonisation ou d'autres formes de transfert de souveraineté qui font que la personne va perdre sa nationalité. Il y a des conséquences très dramatiques. D'une part, on n'a plus de protection étatique. D'autre part, on a des privations de droits. On se retrouve quelque part, on ne peut pas accéder au logement, on ne peut pas ouvrir de compte bancaire.
Bah oui.
Il y a des gens ici, par exemple, qui ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire, qui n'ont aucune assurance maladie, qui ont l'impossibilité de déclarer des enfants qui sont nés. Parce que comme je suis apatride, par ricochet, mon enfant qui va naître pendant que je suis apatride va devenir apatride sans le vouloir. Et donc là, ce sont des conséquences très, 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 très délicates qui peuvent entraîner une exclusion sociale. On peut avoir du mal à se marier, par exemple, parce qu'on n'a pas d'état civil. Et là, c'est des questions très délicates. Je donne juste un exemple par rapport à ça. On parle des Rohingyas, par exemple, à Birmanie. On ne se rappelle pas, parce que nous, on est juristes, on le sait, on suit ces questions de nationalité. En 1982, ils avaient carrément pris une loi pour décréter que pas mal de Rohingyas, du fait de leur confession musulmane, ne sont plus de ces pays, n'ont plus la nationalité birmane.
Alors, avant de nous donner, avant de nous dire quelle protection internationale peuvent bénéficier les étrangers apatrides, nous allons prendre très rapidement Darius. Darius, bonjour.
Oui, bonjour.
Avez-vous une question sur le sujet ?
Une question, parce que le maître a évoqué le cas de la Côte d'Ivoire, où il a dit qu'il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien, je ne pense pas qu'il y ait eu un problème d'apatride en Côte d'Ivoire. Effectivement, le cas atypique en Côte d'Ivoire, c'est la question de l'éligibilité du président de la Côte d'Ivoire. Mais de dire qu'il y a eu un problème d'apatride en Côte d'Ivoire, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est juste pour souligner ça.
Voilà, à l'Utal.
Oui, en fait, je ne suis pas en train de faire de la politique. Je sais qu'il est dans une logique où il y a des Ivoiriens qui sont dans un camp ou autre. Je suis ni Ivoirien ni autre. Je suis juriste. Et aussi, il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a une loi du 13 septembre 2013 qui portait sur cette problématique pour résoudre des problèmes d'apatrides. Cette loi existe. Donc, vous ne pouvez pas ne croire ou ne pas y croire. C'est une loi qui existe.
Alors, à l'Utal, de quelle protection internationale peuvent bénéficier les étrangers apatrides? Merci, Darius, pour la question.
Alors, là, c'est très intéressant, comme on reste toujours dans le cadre du droit. Parce que quand on parle de ces questions, effectivement, il y a des penchants politiques, des ressentiments. Et nous, on est carrément dans le droit. On ne donne que des solutions strictement juridiques. Il faut d'abord dire que, par exemple, cette protection n'est pas réservée à des personnes qui peuvent avoir perdu, qui peuvent avoir été déchues de leur nationalité pour des raisons de criminalité. Soit on a commis un crime de droit commun, soit on a commis un crime de guerre. Il y a des personnes qui ont été déchues. Ces personnes-là, quelque part, ne sont pas protégées par les conventions internationales. Aussi, il faut distinguer le cas des personnes qui sont apatrides et persécutées, ces personnes sont protégées au titre du droit d'asile. C'est des personnes qui peuvent demander la protection de l'asile.
Il faudra prouver aussi qu'on est véritablement persécuté.
Exactement, comme toute personne qui sollicite le droit d'asile, ces personnes relèvent de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés et non pas sur les personnes qui sont apatrides. Ça, c'est des préalables qu'il faut souligner. Et la protection internationale, pour revenir à la question, est d'abord posée par l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des Nations Unies, qui dit que toute personne a droit à une nationalité. À partir du moment où un État consacre cette convention, cet accord international dans son droit interne, on peut l'invoquer. Il y a ce qu'on appelle l'invocabilité directe par les usagers et par les personnes. Et il y a aussi la Convention de New York. Il y a une Convention de New York du 30 août 1961, cette convention qui interdit aux États de créer des apatrides, comme l'exemple que j'ai donné en 1982 avec la Birmanie, c'était une illégalité au niveau du droit international. Et en Europe, il y a la Convention européenne sur la nationalité en 1997, qui en son article 4 dit que toute personne a droit à une nationalité. Et in fine, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la Convention de New York du 28 septembre 1954, qui entre en vigueur en 1960, au mois de juin, et qui donne à ces personnes la protection au niveau du droit d'avoir une confession religieuse, d'accès à la justice, du droit de travailler, du droit d'avoir une assistance administrative, d'avoir des documents de voyage et des documents d'identité.
Très rapidement, on va donner la parole à Youssouf. Bonjour Youssouf.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
C'est par rapport à mon frère ivoirien qui vient de parler concernant qu'il n'y avait pas de problème de nationalité des Ivoiriens. Mais moi, il dit qu'il dit n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que lui, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Ah.
Moi, je suis Keïta, j'ai eu ce même problème en Côte d'Ivoire en me disant que je ne suis pas ivoirien. Et en plus, j'ai mon oncle qui travaille comme un gradé à la police. Comment je ne suis pas ivoirien? Et lui, il est policier en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai eu ce problème. Mes enfants ont eu ce même problème. Mes frères ont eu ce même problème. C'est pas que le président Alassane Ouattara seulement qui a eu ce problème. Il y a plein de milliers de personnes en Côte d'Ivoire qui ont eu ce même problème. Et voilà. Ce que monsieur, le maître a dit, oui. Monsieur Tal, et c'est vrai, il sait de quoi il parle. Il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Donc, c'était pour faire comprendre mon frère ivoirien là que.
Darius.
Voilà. Et ce qu'il a fait, il n'a qu'à bien réfléchir avant de parler, quoi.
Voilà, merci beaucoup, Youssouf. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
Merci,
dernière
Youssouf.
Question à Lyoutal. En France, quels sont les droits accordés aux apatrides? Rapidement, en deux minutes, qu'est-ce qu'on peut dire?
Très bien. Avant de dire cette personne qui vient de dire, comme on dit, on ne parle pas de politique ici, hein, mais ouais. Il faut dire que je le renvoie que si le problème n'existait pas, la Côte d'Ivoire n'allait pas adopter une loi du 13 septembre 2013 pour résoudre un problème d'apatrides. Donc, il ne faut pas entrer dans des considérations politiciennes ou partisanes. Ouais. Il faut être concret. Ce qu'on vient de dire, c'est que du concret.
C'est
ici,
très sérieux.
Sur tout ce qu'on dit ici, c'est sérieux parce qu'on est des gens sérieux. Alors, pour revenir à cette question, par rapport à la France a signé la convention que j'ai soulignée de 1961 sur les apatrides, mais c'est surtout une loi récente, très récente, du 29 juillet 2015. On se rappelle de la loi sur l'asile. Avant la loi qui vient d'être adoptée présentement, il y avait une loi sur l'asile et cette loi a consacré des dispositions de droit international en droit français, ce qu'on appelle la transposition. Maintenant, on peut les invoquer directement et de manière très facile, ça a été facilité. Quand on est apatride, de cette loi consacrée en droit français et de la loi du 7 mars 2016 concernant l'immigration, on peut prétendre à un titre de séjour en sollicitant l'OFRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il faut adresser sa demande à l'OFRA, préciser quel est le contexte, quelles sont les circonstances d'après lesquelles on est devenu apatride. Si on ne le connaît pas, il faut avoir recours à un bon juriste. Je dis un bon juriste qui peut être un avocat aussi, mais qui doit connaître à la fois le droit des étrangers, mais surtout les conflits de loi et les conflits de juridiction. Ça veut dire le droit international privé. Sinon, cette personne ne pourra pas bien vous conseiller. Si vous écrivez bien votre situation, vous l'envoyez à l'OFRA. L'OFRA doit enregistrer votre demande et vous envoyer un récépissé. Et après cela, il y aura un enregistrement. Et si la demande est favorable, vous avez droit à un titre de séjour de 1 an. D'après l'article L313-11-10 du Code des étrangers, c'est de plein droit. L'administration a les compétences liées. Elle ne peut pas dire non si vous remplissez les conditions juridiques. Donc, c'est juste un travail de juriste. Et aussi, si vous vivez ici avec cette protection pendant 3 ans, vous avez droit à un titre de résident au titre de l'article L313-11-9 du Code des étrangers. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez avoir la réunification familiale. Ça veut dire que si vous êtes protégé à ce titre-là, l'article L812-5 du CCDA vous permet de faire venir votre famille, ça veut dire votre conjoint et vos enfants.
Merci à Lyoutal. Je rappelle que vous êtes juriste spécialiste de droit des étrangers en France. Comment obtenir le statut d'apatride quand on n'a aucune nationalité? C'était notre sujet du jour. Vous pouvez continuer à nous laisser des messages sur le répondeur de la radio africaine au 01 55 07 58 05 ou vous faites le 06
16 05 45 51.
C'était Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.